Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, bienvenue et bon réveil, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Vous discutez aujourd'hui avec Eduardo Rios-Ludena en direct d'Oxford.
Oui, c'est ça. On va parler de ces plus de 300 créanciers, 91% des détenteurs de la dette d'un Venezuela que les agences disent au bord du défaut de paiement. Le sort du pays et du gouvernement Maduro se jouait-il vraiment hier à Caracas? Bonjour Eduardo Rios-Ludena.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va, merci, bonjour, merci beaucoup d'être au téléphone si tôt avec nous en direct d'Oxford. Vous êtes chercheur aux séries de Sciences Po, auteur d'une thèse sur l'État au Venezuela et en Bolivie. Alors, pas d'annonce rassurante hier quant à la position du gouvernement vénézuélien sur sa dette, alors que l'enjeu financier est plus que pressant, voire oppressant. 2 milliards de dollars à rembourser avant la fin de l'année, 10 d'ici fin 2018, avec une dette extérieure qu'on chiffre autour de 150 milliards de dollars. Le risque est un défaut de paiement et l'isolement sur les marchés internationaux. Mais en même temps, ne pas payer dégagerait une marge de manœuvre sociale, disent certains, puisque jusqu'ici, le Venezuela a payé en sacrifiant les importations au prix d'une crise humanitaire. Et puis, marge de manœuvre peut-être politique, alors que le Parti Socialiste Unifié de Venezuela est en phase de rebond après la victoire au régional et une opposition presque neutralisée. En quelque sorte, c'est le deuxième calendrier de cette fin d'année. Il est politique, les municipales de décembre et la présidentielle fin 2018. Dans ce contexte, Eduardo Rios-Ludena, la dette est bien sûr un levier d'action du gouvernement utilisé avec précaution, mais quelle lecture est-ce que vous faites de l'attitude du président Maduro qui affirme en même temps que jamais le Venezuela ne sera en défaut de paiement et qui a lancé il y a quelques jours une commission de restructuration de la dette, comme s'il court-circuitait un mécanisme de défaut?
Je pense que votre analyse est juste. Le Venezuela doit être lu maintenant sous l'angle politique. Maduro a réussi à rebondir après les élections régionales. Maintenant, il va se lancer au municipal et il va préparer les présidentielles en dégageant des marges de manœuvre financières, notamment pour financer son mouvement clientélaire qui lui permet de gagner des élections. Et cela va se faire sous le dos des investisseurs étrangers. Comment il peut faire ça et ne pas réduire le Venezuela à la fin va être en effet, je pense, le grand dilemme de la politique vénézuélienne des prochaines années.
Alors parce
si
que
je peux me permettre,
oui, bien sûr.
Si je peux me permettre un petit détail, l'opposition a encore un rôle à jouer dans la restructuration de la dette, puisque les acteurs internationaux ne vont reconnaître de dette vénézuélienne que si elle est acceptée par l'Assemblée nationale, que le gouvernement Maduro a complètement détruite et nucléée, vidée de ses fonctions.
Alors voilà. Justement, on va en dire un mot du rôle de cette opposition. Simplement pour qu'on soit au clair sur, disons, les aspects techniques et financiers de cette dette. Pour l'instant, le Venezuela a quand même payé cette année. Il a payé au coup par coup. Je crois qu'il y a eu 4 paiements depuis début 2017. Il y a eu des rééchelonnements obtenus de la part de la Russie et la confiance, tout récemment, c'était les mots de la Chine qui détient, je crois, 28 milliards de cette dette. Ça veut dire que, quand bien même, dans cette situation politique actuelle, Nicolas Maduro peut obtenir un certain nombre de rééchelonnements.
De la part de certains États, notamment de la Chine et de la Russie, c'est-à-dire autour de entre 20 et 30 milliards de dollars de dette souveraine. Le reste des 60 milliards de dollars de dette souveraine sont détenus par des compagnies qui reçoivent des dollars et qui sont dans les États, sont soit aux États-Unis ou ont des succursales aux États-Unis. Le Venezuela est techniquement en défaut de paiement selon Standard & Poor's, c'est arrivé il y a 2 heures, et pire que ça, le Venezuela a déjà fait défaut sur la dette de l'entreprise d'électricité de Caracas. Donc on est vraiment dans un scénario où le Venezuela n'est pas en train de faire des paiements. La raison pour laquelle d'ailleurs Standard & Poor's a dit que le Venezuela est en défaut de paiement, c'est qu'ils n'ont pas fait de paiement d'intérêt sur une partie très petite de la dette. Donc on est en train de commencer à assister au premier manque de paiement réel du Venezuela.
Alors,
ce qu'il avait évité à tout prix.
Ça effectivement c'est une nouvelle, vous nous l'apprenez. Ce premier défaut de paiement d'une des 3 principales agences qui avait dégradé récemment la note du Venezuela Venezuela. Reste qu'il y a encore une capacité de paiement du Venezuela. C'était, je crois, une des députées de l'Assemblée nationale en avril qui disait dans Le Monde que elle avait calculé que les revenus pétroliers actuels équivalaient à 12 milliards de dollars. Je crois qu'il y a 10 milliards de dollars de réserves pour le Venezuela, ce qui veut dire qu'il aurait encore de quoi tenir financièrement jusqu'à fin 2018 pour payer le total des 10 milliards de dettes quand même.
Je ne veux pas endormir les personnes qui nous écoutent, mais la grande majorité de la dette vénézuélienne est non liquide et en or. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que le Venezuela a plus d'argent frais pour payer la dette. Et la dette doit être payée hier soir et pas dans quelques jours ou pas après avoir liquidé de l'or ici et là. Donc le Venezuela a un problème de trésorerie aujourd'hui bien plus qu'un problème réel de manque de paiement. Il aurait la possibilité de payer toute sa dette en tuant les Vénézuéliens de faim, ce qu'il était en train de faire. Mais là, il n'est plus dans la possibilité de tuer les Vénézuéliens de faim parce qu'il n'a plus de trésorerie pour le faire.
Oui, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs juste qu'effectivement, il y a eu des sanctions économiques qui empêchent le Venezuela, notamment, de se fournir en liquidité bancaire, des sanctions de la part des États-Unis.
Mais les sanctions économiques sont des sanctions qui sont dirigées vers des personnes très haut placées dans le gouvernement. Non, les sanctions, les problèmes de trésorerie du Venezuela viennent du fait que le gouvernement n'a pas su gérer ses réserves en dollars issues de la très mauvaise gestion de la manne financière qui a suivi l'augmentation des prix des pétroles il y a quelques années. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut insister.
Et de ce point de vue-là, alors, quel impact justement peut avoir cette dégradation de la note et disons ce défaut de paiement aujourd'hui signifié par Bloomberg ?
Le défaut de paiement va avoir trois conséquences importantes. Politiquement, il va permettre de remettre en marche des négociations entre le gouvernement et le monde international. Deuxièmement, elle va permettre de remettre l'opposition politique au centre du jeu politique vénézuélien. Et troisièmement, si elle se confirme, elle va avoir des conséquences terribles sur la vie économique des Vénézuéliens.
Alors, on va commencer par parler de la vie économique. Pour ceux qui disaient, parce que c'est vrai qu'on avait vu certains analystes dire que ça pouvait être une sorte d'aubaine politique, cette dette et surtout ce défaut de paiement, dans la mesure où ça permettrait de mobiliser de l'argent sur place en évitant d'avoir à payer les échéances. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'il y a une situation humanitaire, économique, on ne va pas revenir dessus, mais qui est dramatique, avec quand même un fort mécontentement de la population selon certains cabinets, 80% de mécontents selon Data Analysis. Ça aurait pu, disons, lever un peu cette chape de plomb sur la population, chape de plomb économique.
Oui, la réponse est non. Le FMI considère que le Venezuela a besoin de 30 milliards de dollars par an pour relancer l'économie et la remettre dans une dizaine d'années à l'endroit où elle était juste avant la débâcle économique. Le Venezuela a perdu 35% de PIB sur les derniers 4 ans. C'est avec l'argent seul du pétrole et avec la moitié de l'argent seul du pétrole, puisqu'on pense que Maduro veut faire défaut que sur la dette de l'État, pas sur la dette de l'entreprise pétrolière. S'il faisait dette sur la dette de l'entreprise pétrolière, ses biens pétroliers, notamment ses raffineries aux États-Unis, pourraient être embargués. Du coup, si Maduro faisait défaut sur la moitié de la dette souveraine au Venezuela, il aurait assez d'argent pour se payer une dernière cavalcade électorale et pas pour relancer l'économie, ni pour générer des marges de manœuvre qui permettent de donner une solution claire à la crise économique que souffre le Venezuela.
Et alors, assez rapidement, mais c'est un peu synthétiquement, disons, à quel scénario politico-social il faut s'attendre d'ici fin 2018, dans la mesure où, pour ces élections municipales, on a effectivement un parti socialiste qui se présente en position de force. D'ailleurs, il a déjà la majorité des mairies, donc l'enjeu, c'est bien la présidentielle fin 2018. Vous dites réintégrer l'opposition, mais c'est aussi donner une image de stabilité et de fiabilité aux institutions internationales. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ?
Très rapidement, Maduro, s'il veut que la révolution bolivarienne continue à gouverner le pays, doit être reconnue comme légitime sur la scène internationale. Pour ce faire, il faut qu'elle gagne les prochaines élections présidentielles lors d'élections plus ou moins compétitives. Et c'est ça qui est en train de se profiler, une situation dans laquelle Maduro va essayer de mettre en place des élections qui soient le plus compétitives possible, mais en le mettant lui dans la meilleure situation possible. C'est-à-dire, il va essayer d'aller aux élections en empêchant que l'opposition ait de l'argent, des fonds, et en le mettant en prison la moitié des dirigeants, mais et lui-même ayant 5 milliards de dollars, parce qu'il va sûrement faire défaut sur dette souveraine, mais en permettant que l'opposition se présente et aille aux élections en position de faiblesse. C'est ça ce qui va se jouer. Le prochain chapitre de la politique vénézuélienne est l'élection présidentielle et la tentative du chavisme au pouvoir de continuer à gouverner le pays. On a vu avec quelles conséquences, on va voir s'ils vont rectifier le tir dans les quelques mois à venir.
Eh bien là aussi, ce sera un enjeu considérable avec cette opposition effectivement un peu neutralisée. Les deux des principaux chefs de l'opposition, l'un vice-président de l'Assemblée nationale, l'autre président de l'Assemblée nationale supplanté par la constituante et l'autre réfugié à l'ambassade du Chili depuis le 4 novembre. Merci beaucoup en tout cas Eduardo Rios Ludena, chercheur au CERI Sciences Po. Merci d'avoir été en direct d'Oxford.